Kiosque Magazine.
Bonjour à tous. La plus cordiale des bienvenues sur les ondes du Canal M en ce lundi 10 novembre. C'est un nouveau Kiosque Magazine qui vous est proposé.
Oui.
Et le lundi, c'est au rayon de la culture et de la société que nous sommes allés vous chercher des articles.
Oui. Moi, je tiens à vous saluer, Roger Roy.
Oui, bonjour, Serge Hamelin.
Oui.
Toujours en forme?
De mieux en mieux. J'ai couché dans un moule la nuit dernière, je me suis réveillé en forme.
Je ne sais pas si Jean-Sébastien de la Liberté a fait la même chose.
Il a l'air tout à fait
guilleret ce matin. Oui. Alors, nous sommes là pour l'heure qui s'en vient.
Oui.
Et nous allons vous lire des articles en provenant que nous avons colligé dans quel magazine?
Que nous avons glané, je dirais, puisé aussi.
Pioché en même temps.
Oui, dans la revue Protégez-vous du mois septembre plutôt, et dans la revue du Bel Âge du mois de octobre.
Moi, je suis d'une constance assez étonnante. Toujours Reader's Digest et l'actualité.
On peut se fier sur vous.
Oui, c'est ça. Alors, je commence tout de suite par l'actualité du 15 novembre. Serge, vous le saviez peut-être pas, mais un sale boulot nous attend.
Ah oui?
Oui, oui. C'est un monsieur Robert Fowler qui a rédigé ce texte.
Ah bon?
C'est un professeur à l'Université d'Ottawa et est un ex-ambassadeur du Canada. Il faisait partie de l'élite au niveau des relations extérieures, des relations étrangères du Canada. Il a passé 130 jours en captivité aux mains d'Al-Qaïda avant d'être libéré.
Oh.
Et il écrit un texte qu'il appelle « Un sale boulot nous attend ».
Oh, oh.
Alors, c'est très actuel. Nous vivons à une époque de décapitation sans scrupules et de répliques mal avisées à ces décapitations.
Ouais.
Bien des observateurs occidentaux semblent persuadés que le comportement atroce du groupe armé État islamique contribuera à légitimer et renforcer la coalition anti-État islamique tout en affaiblissant son autorité. Mais ce raisonnement est faussé par des a priori occidentaux. Ce qui nous paraît raisonnable ne l'est certainement pas pour État islamique, ni pour bien d'autres d'ailleurs dans le monde, particulièrement dans l'Oumma musulmane. Nous nous sommes trompés en Irak et en Afghanistan, puis en Égypte, ensuite en Libye et en Syrie. Nos valeurs ne sont pas les leurs, et elles ne sont pas universelles non plus. D'où le fait que la politique étrangère basée sur les valeurs de John Baird et de Stephen Harper est si mal fondée et prétentieuse. C'est Robert Fowler qui parle. C'est bien dommage, mais il n'existe pas de valeur essentielle qui soit universellement acceptée, et rarement avons-nous réussi, où que ce soit dans le monde, à forcer les populations à troquer leurs valeurs contre les nôtres. Malgré les billions de dollars que nous avons dépensés collectivement pour combattre les talibans en Afghanistan afin de gagner les cœurs et les esprits, bien des Afghans, sans doute la plupart, ne veulent pas voir de filles à l'école. Ces Afghans sont peu intéressés par la démocratie. Ils croient que nos sermons à propos de la corruption sont d'une hypocrisie sans borne et préfèrent cultiver du pavot plutôt que des carottes. L'État islamique est très conscient de la façon dont nous sommes perçus. Il sait qu'il est bon pour sa propagande de provoquer les Américains ou d'égorger des Occidentaux. Il comprend à quel point l'idée de subir des pertes répugne aux Occidentaux dont les actions perdent en efficacité du fait d'une sorte de trouble déficitaire de l'attention collectif. Il sait l'effet désastreux des incursions mal avisées en territoire musulman et il espère nous attirer dans un autre guet-apens. Ce faisant, il est assuré d'augmenter sa base de recrutement, son autorité, l'étendue du mouvement et son influence, et il se fiche du nombre de morts dans ses rangs. En vérité, de telles pertes sont, à ses yeux, un cadeau du ciel. La réaction occidentale aux récentes atrocités est révélatrice d'une vision du monde nombriliste et sélective. Nos vagues alliés de l'opposition syrienne, que nous armons avec tant d'empressement, se livrent méthodiquement depuis 3 ans à la torture, au massacre d'enfants, de femmes et d'hommes, aux décapitations et autres démembrements de dizaines de milliers de victimes, tout comme les légions meurtrières de Bachar al-Assad. Et voilà que soudain, drapés dans la vertu, l'indignation et le dégoût, nous improvisons une coalition floue, sans cohésion, et pas très déterminé en réponse à la mort de 4 Occidentaux innocents aux mains de versions toujours plus extrémistes d'Al-Qaïda. Nous avons par conséquent réagi exactement comme elle l'espérait. La mission de notre coalition s'élargira inévitablement. Notre allergie paralysante à l'engagement de troupes au sol et notre refus d'admettre qu'il est impossible de contrôler un vaste territoire du haut désert, comme le prouve actuellement la Libye, auront pour conséquence, comme en Afghanistan et en Irak, que nous bombarderons encore davantage, que les drones seront déployés plus largement et avec encore moins de discernement, et que nous tuerons et mutilerons beaucoup, beaucoup plus d'innocents que le califat n'aurait pu en décapiter dans ses rêves les plus fous. Tout le monde saura, par contre, que là-haut, dans le ciel, loin derrière la ligne de front, nous ne mettons pas notre peau en jeu. Comme d'habitude, nous exhorterons nos alliés du Moyen-Orient, prétendument bien entraînés, à faire preuve de bravoure dans un combat que peu d'entre eux considèrent comme le leur. Et encore une fois, nous serons déçus pour un temps. Nous parviendrons à réduire l'efficacité militaire de l'État islamique dans le nord de la Syrie et en Irak, tandis que son autorité morale, elle, fleurira et que ses opérations se multiplieront partout en dehors de la zone d'intervention. Et alors, bientôt, selon un calendrier réaliste, nous nous retirerons et nos actions et motivations seront honnies pour bien plus longtemps encore, en somme. Et bien que je regrette cette conclusion, nous ne réussirons pas à affronter et à contenir les exactions d'Al-Qaïda et de l'État islamique parce que nous n'aurons pas eu la volonté qu'il faut pour l'emporter. Si nous tentions sérieusement de supprimer la tumeur djihadiste, d'arrêter ceux qui s'acharnent à vouloir détruire les bases de notre civilisation, il faudrait alors aller très au-delà de nos dispositions actuelles pour nous engager à fond. Il nous faudrait convaincre ceux que nous appelons nos alliés en Arabie saoudite et dans les pays du Golfe de réellement cesser, de financer les prêcheurs djihadistes et les réseaux terroristes partout dans le monde. Chez nous, nous devrions édicter clairement que nous ne tolérerons ni les enseignements djihadistes, ni les recrutements de djihadistes, ni la dissémination de propagande djihadiste. En conclusion, dit-il, à moins d'y aller à fond, ça ne vaut pas la peine d'essayer et nous devrions nous retirer tout de suite. Une tentative sans conviction telle que celle dans laquelle nous semblons nous être embarqués ne fera qu'empirer les choses. C'est l'opinion de M. Robert R. Fowler. Cette opinion est reproduite dans l'actualité du 15 novembre sous le titre « Un sale boulot nous attend ».
Eh bien, à la suite de cet article de quoi nous rendre malades, nous allons parler de résultats médicaux. Quoi de neuf, docteur?
Okay.
C'est paru dans la revue Protégez-vous du mois de septembre et un article écrit par Rémi Leroux. Lors de votre dernier rendez-vous, votre médecin vous a fait passer une batterie de tests. Alors, voici un petit guide pour mieux comprendre les résultats. Le dernier bilan sanguin de Sonia Turcotte remonte à 2012. Un an après son infection au virus de la dengue lors d'un séjour à l'étranger. À l'époque, sa médecin de famille s'est montrée peu loquace. Elle s'est contentée de dire que les résultats étaient bons, raconte cette résidente de Sainte-Julie qui aurait aimé avoir davantage de détails et bénéficier d'un suivi plus serré après cette maladie qui l'a laissée très affaiblie. Vous avez peut-être déjà vécu ce genre de situation. Car, dans leur pratique quotidienne, les médecins de famille ne prennent pas toujours le temps d'expliquer le pourquoi du comment à leurs patients. Conséquence, nous sortons souvent de leur bureau avec une ordonnance pour un paquet de tests et d'analyses sans en comprendre la nature et sans savoir s'ils sont justifiés. Comme dans le cas de Sonia Turcotte, les explications ne sont pas non plus toujours au rendez-vous quand les résultats arrivent. Pourtant, ces tests en disent long sur votre état de santé. Et bien souvent, ils aident à prévenir l'apparition de maladies ou à améliorer leur prise en charge. Savoir lire leurs résultats est donc important. Pour vous aider à poser les bonnes questions et à prendre des décisions éclairées en matière de traitement, Protégez-vous décrypte 5 tests parmi les plus courants, prescrits ou effectués par les omnipraticiens. Nous déchiffrons aussi leurs résultats et décrivons le suivi à envisager. Premier test, pression artérielle. Deuxième test. IMC et tour de taille. Troisième, formule sanguine. Quatrième, glycémie. Et finalement, le test PAP. Ouais, ça c'est pas religieux là, ce test-là. Non, non, non. Alors, le premier test, pression artérielle, n'est-ce pas? Cette mesure représente la force que le sang exerce sur les parois de vos artères. Une pression trop élevée peut endommager les vaisseaux, ce qui accroît le risque d'accident cardiovasculaire. Au contraire, une pression trop basse peut provoquer des étourdissements et des chutes ou être le symptôme d'une maladie comme un dérèglement thyroïdien ou la maladie de Parkinson. Le médecin vous présentera votre résultat sous la forme d'une fraction. 114 sur 77. Savez-vous ce que ça veut dire, vous?
Ah, j'ai hâte de le comprendre.
Le premier chiffre correspond à la pression maximale dite systolique.
Oh, là,
qui
c'est
se
clair.
Produit, c'est clair. Qui se produit lorsque le cœur se contracte. Le second chiffre indique la pression minimale dite diastolique, qui se produit lorsque le cœur se relâche. IMC et tour de taille, qu'est-ce que c'est? La mesure du tour de taille permet d'identifier un excès de graisse au niveau de l'abdomen. Ça ne doit pas être tellement compliqué, ce test-là. Complémentaire, l'indice de masse corporelle est une mesure simple qui sert à estimer le surpoids et l'obésité chez l'adulte. L'IMC ne s'applique cependant pas aux femmes enceintes, bien là, j'espère, ou qui allaitent, ni aux sportifs de haut niveau. Non. Un IMC et un tour de taille élevé sont des facteurs de risque de maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'arthrose, etc. Attention, l'IMC et le tour de taille ne vont pas l'un sans l'autre. Si votre médecin calcule uniquement l'IMC, demandez-lui aussi de mesurer votre tour de taille. L'IMC se calcule en divisant le poids en kilos par la taille au carré, et le tour de taille, circonférence de l'abdomen, se mesure en centimètres. Bon. Formule sanguine, le troisième test. La formule sanguine complète, FSC, évalue entre autres la quantité et la qualité de globules rouges, de globules blancs et des plaquettes présentes dans le sang. Ces données renseignent votre médecin sur votre état de santé général et sur votre système immunitaire. Elles servent aussi à détecter la présence d'une anémie ou d'une infection et à évaluer le fonctionnement des organes qui fabriquent le sang, la moelle osseuse et la rate. Et l'unité de mesure, c'est le nombre de cellules dans une quantité donnée de sang. Et chaque composante du sang est mesurée séparément. La glycémie. La mesure de la glycémie vérifie le taux de glucose présent dans le sang et ce sucre est une source d'énergie indispensable au bon fonctionnement des cellules de l'organisme, particulièrement celles des muscles et du cerveau. Une glycémie trop basse, hypoglycémie, peut provoquer tremblements, transpiration, fatigue et confusion. Et un excès de sucre dans le sang, hyperglycémie, endommage les reins, les yeux, le système nerveux, le cœur, les vaisseaux sanguins et peut favoriser l'apparition du diabète, un problème de santé publique majeur. Non traité, le diabète peut augmenter le risque de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux ou d'insuffisance rénale. Et pour terminer, le test PAP, le dépistage par frottis. De Papanicolaou, ou appelé test PAP, ou cytologie du col utérin, sert à dépister les états précancéreux du col de l'utérus et du vagin ou des infections de l'appareil génital. Pourquoi votre médecin a fait ce test? L'Institut national de santé publique du Québec recommande un dépistage tous les 2 à 3 ans pour les femmes entre 21 et 65 ans. Et que signifie votre résultat? Le test PAPS consiste en une analyse de cellules prélevées sur le col de l'utérus. Et si les cellules sont normales, le test est négatif. Si elles présentent une anomalie, il est positif. Mais cela ne signifie pas qu'une femme a un cancer, insiste le docteur Serge Goulet, professeur de médecine familiale à l'Université de Sherbrooke. D'autres facteurs peuvent causer un résultat anormal, comme une infection au VPH, une inflammation, un dispositif intra-utérin stérilet ou des changements précancéreux dans les cellules. Alors voilà, c'est la fin de 5 tests que le médecin vous proposera et effectuera si vous allez le visiter.
Merci, docteur.
Aimons-nous quand même, aimons-nous jour après jour. Aimons-nous quand même, aimons-nous malgré l'amour.
Aimons-nous de rage, aimons-nous mais sans pitié. Aimons-nous en cage, aimons-nous sans amitié.
2000 ans de haine n'ont rien changé à l'amour. Pour briser nos chaînes, sonnent canons et tambours.
C'est l'amour qui gronde.
L'amour avance à grands pas.
Détruira le monde
par amour du combat. Je t'aime, tu m'aimes, il est. Nous vous aimons, vous nous aimez. Il m'aime, il t'aime, il s'aime. La mort unie sans retour.
Aimons-nous, je t'aime.
Je te tuerai, mon amour. L'amour nous préserve des remords de nos tueries.
On tue sans réserve par amour de sa patrie.
On vit sans histoire. Lorsque l'on vit sans aimer, l'amour c'est la gloire, la puissance c'est l'amitié. Aimons sans contrainte,
aimons-nous comme il se doit.
Resserrons l'étreinte
qui nous étouffera de joie.
Je m'aime, tu t'aimes, il s'aime. Nous nous aimons, vous vous aimez, il s'aime.
Autre duo improbable, Marc Hervieux et Michel Rivard.
Ah!
Cette chanson de... Oui.
Il me semblait aussi.
Des nouvelles médicales. C'est sur le CD réalisé pour, au bénéfice de l'organisme Les Impatients. Des nouvelles médicales qui laissent songeurs. C'est dans le Reader's Digest du mois de novembre. Un texte signé par Holly Levine Sklar. L'auteur de l'article présente à ses lecteurs des théories médicales. Puis elle présente un genre de critique des théories en essayant de voir si ces théories sont valables ou pratiques. Alors, je vous donne quelques-unes de ces théories. La première, si je peux la retrouver, je vais faire un effort particulier. L'inflammation et la dépression en théorie. Ces 50 dernières années... Les psychiatres admettaient généralement que dépression et déséquilibre chimique cérébral, tel un déficit de sérotonine, allaient de pair. La sérotonine, nous le savons tous, c'est l'hormone du bonheur. Mais cela n'expliquait pas la hausse constante de la dépression. Les cas ont plus que doublé entre 1991 et 2001 pour passer de 3,3% à 7% d'adultes touchés par la dépression. Aujourd'hui, environ 10% des Américains en souffrent. Là intervient la théorie de l'inflammation. Après blessure ou exposition à des microbes pathogènes, le système immunitaire produit des cytokines, substances chimiques qui combattent l'inflammation et réparent les dégâts. Des spécialistes croient aujourd'hui que l'exposition chronique aux cytokines à la suite d'une inflammation due au stress, à l'alimentation ou à des toxines environnementales diminue la sérotonine et contribue à la dépression, explique le docteur Charles Raison, qui est professeur à l'Université de l'Arizona. Les scientifiques avaient déjà fait ce rapprochement dans les années 1980 en injectant des bactéries inflammatoires à des animaux qui avaient alors montré des signes de dépression, léthargie, perte d'appétit et isolement social. Des études ultérieures dirigées par le docteur Raison ont découvert chez les personnes déprimées des taux plus élevés de substances chimiques inflammatoires telles la protéine C réactive. Intriguée, l'équipe du docteur Raison a donné à de l'infliximab, un anti-inflammatoire contre les maladies auto-immunes, à des sujets souffrant de dépression grave. Ceux avec des taux élevés de protéines C réactives ont rapporté une plus grande amélioration de leurs symptômes de dépression que les autres. L'inflammation n'est sans doute pas la cause primaire de la dépression, mais les spécialistes croient de plus en plus qu'elle peut la prolonger ou l'aggraver. Des anti-inflammatoires pourraient grandement influer sur l'humeur des patients dépressifs atteints d'inflammation. Critique maintenant. En pratique. Un mode de vie favorisant le bien-être émotionnel, alimentation saine, exercice, sommeil suffisant, réduit aussi le risque d'inflammation et donc de dépression. Selon une étude espagnole sur plus de 10 000 sujets d'âge mûr, une alimentation riche en produits transformés double les risques de dépression par rapport à une alimentation méditerranéenne, riche en poissons, fruits et légumes, noix et graisses mono-insaturées comme celle de l'huile d'olive. Des exercices comme la respiration profonde, la méditation en mouvement ou le yoga peuvent aussi réduire le risque d'inflammation. Selon une étude de 2013 des chercheurs de l'Université du Wisconsin à Madison, ces activités contribuent à atténuer l'inflammation causée par le stress chez les individus souffrant d'une maladie inflammatoire telle l'arthrite rhumatoïde ou l'asthme. Donc, en théorie, il y a un lien entre l'inflammation et la dépression, et on vous a présenté les commentaires ou la réaction de l'auteur de l'article, Ali Levine-Sklar. Autre théorie, virus et obésité. Tiens. Nick Durandar, chercheur spécialisé en obésité, a eu cette idée il y a 25 ans lors d'un dîner mondain à Mumbai, en Inde. Un vétérinaire, vieil ami de la famille, parlait de milliers de poulets victimes d'un virus, mais qui avaient beaucoup grossi. Je me suis dit, pourtant, la logique voudrait plutôt qu'un poulet mourant perde du poids. J'ai commencé à m'interroger, était-ce possible que les deux maladies soient liées? Alors ce Nick Durandar a poursuivi l'étude du phénomène. Il a vite compris que les animaux infectés par le virus du rhume AD36 prenaient du poids. En testant sa théorie sur plus de 500 personnes, il a découvert que 30 % des sujets obèses, contre seulement 11 % des sujets minces, avaient été exposés au virus AD36. Depuis, des études de suivi menées par d'autres chercheurs ont donné des résultats similaires. Nous pensons que le virus infecte les cellules graisseuses, provoque leur division et accélère leur croissance, explique-t-il. Point positif. Le virus semble améliorer les taux de cholestérol et de sucre dans le sang. Le corps produit plus de cellules graisseuses, il y a donc moins de gras dans le foie et le sang, précise-t-il. Cela expliquerait pourquoi certains obèses sont moins enclins aux maladies cardiaques ou au diabète que leurs homologues plus minces. Le chercheur reconnaît que le virus n'est pas la seule cause de l'obésité, mais il expliquerait pourquoi certaines personnes peinent à perdre du poids. Alors, le virus de l'obésité ne signifie pas qu'il est impossible de maigrir, juste qu'il faudra faire bien plus d'efforts, ajoute-t-il. Commentaire en pratique. Toujours selon l'auteur de cet article du Reader's Digest, dans la prochaine décennie, les chercheurs espèrent avoir un vaccin contre l'obésité et immuniser les gens contre le AD36. Il travaille aussi à identifier d'autres virus liés à l'obésité humaine. Il n'y a cependant aucune raison de se faire dépister pour ce virus, comme environ la moitié des obèses ne l'ont pas. Il est clair que d'autres facteurs, par exemple le style de vie et la génétique, jouent un rôle plus important. Troisième théorie. Électricité, maladie et prise de poids. L'électricité nous permet de rester devant nos portables ou consoles de jeux jusqu'au petit matin, mais selon une étude britannique publiée l'an dernier dans le journal Bioessays, elle pourrait avoir une incidence importante sur notre santé et notre tour de taille. Des millénaires durant, on s'est levé à l'aube et on a travaillé surtout le jour. La nuit, il y avait peu à faire, à part dormir. Puis, au siècle dernier, on a commencé à dépendre de l'électricité et à se coucher tard, à contre-pied du rythme circadien naturel, entraînant un déséquilibre hormonal, notamment au niveau de la mélatonine, de l'insuline et du cortisol. En pratique, l'électricité ne disparaîtra pas, mais avoir un horaire de sommeil stable peut en limiter les effets sur la santé. Couchez-vous et levez-vous à la même heure en semaine et les week-ends. Une étude de 2012 de l'Université de Munich, et des études qui se font partout, a démontré qu'un horaire irrégulier augmentait le risque de prise de poids. Pour réduire au minimum les sources lumineuses dans votre chambre, couvrez votre réveil et vos téléphones, limitez aussi l'utilisation de la télé et de l'ordinateur le soir. Voici de bons conseils qui nous sont prodigués dans un article de Reader's Digest du mois de novembre.
Alors, voici quelques brèves. La chromothérapie, ça vous dit quelque chose?
La chromothérapie, maintenant.
Ouais, ben, vous parliez, vous, là, de l'affaire. Là. Ouais, je continue. La grisaille des jours s'installe en douce. Mais il y a une solution à la dépression saisonnière causée par la diminution de l'intensité et de la durée de la lumière solaire.
Tiens.
Ben oui. La thérapie par les couleurs propose des séances d'exposition aux différentes nuances de l'arc-en-ciel pour rééquilibrer l'énergie du corps et de l'esprit. Et sans avoir recours à des praticiens de cette technique, on peut observer l'influence des couleurs sur nous-mêmes, soit en portant des lunettes de chromothérapie à certains moments de la journée, en alternant les couleurs de nos vêtements, en changeant celles de notre décor ou encore celles des fruits et légumes que nous mangeons. Et à nous de savoir reconnaître les couleurs que notre cerveau utilise.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
L'ordi parfait pour vous. L'ordi. Alors, une évaluation des portables, le chargé de projet Martin Dionne, le journaliste Frédéric Perron. Alors, dans la revue Protégez-vous, on a déniché des portables qui répondront à vos besoins. Que vous soyez un utilisateur occasionnel du web, un travailleur souvent en déplacement ou un amateur de jeux vidéo. Les magasins d'électronique font régulièrement la promotion de portables à 500 $ ou moins. S'agit-il de bons achats? Pas nécessairement. En boutique, vous constaterez que ces appareils à bas prix sont souvent fabriqués avec des composants de faible qualité. Le clavier manquera peut-être de fermeté, le pavé tactile sera sans doute peu sensible et l'ensemble de l'ordinateur pourrait sembler fragile. Mais ne désespérez pas. Nous avons trouvé 29 ordinateurs portables efficaces que nous avons classés selon 4 profils d'utilisateurs. Même un budget limité, vous y trouverez. Même avec un budget limité, vous y trouverez votre compte, notamment avec les Chromebooks vendus à 330 $ ou moins. Ces appareils vous permettent essentiellement de surfer sur Internet et d'utiliser les services de Google. Vous cherchez un portable aux possibilités plus larges? Nous avons aussi sélectionné des modèles équipés de Windows 8 ou de OS X grâce auxquels vous pourrez naviguer sur le web, créer des documents, gérer vos photos, discuter sur Skype, etc., etc. Selon que vous comptez vous déplacer souvent ou non avec l'appareil, nous vous proposons des modèles de taille plus ou moins grande. Enfin, si vous avez besoin d'un ordi plus puissant, notamment pour jouer à des jeux vidéo ou faire de la modélisation 3D, nous avons aussi des appareils à vous recommander pour un budget allant jusqu'à 2 400 $. Vous vous questionnez sur les principales caractéristiques des différents modèles. Le guide d'achat de la page 16 vous permettra de comparer les portables sur le marché. Alors, dans les portables, il y a l'économe, il y a le mobile, il y a le polyvalent, il y a le performant. Voilà. Donc, l'économe. Si vous cherchez un deuxième ordinateur pour la maison, si votre budget est limité, les Chromebooks offrent un rapport qualité-prix satisfaisant et ces appareils fonctionnent avec le système d'exploitation Chrome OS de Google qui convient bien pour des utilisations de base comme la navigation web, l'échange de courriels et la création de documents dans Google Drive. Attention cependant, les services en ligne remplacent les applications traditionnelles. Vous ne pouvez donc pas y installer de logiciels comme Skype, iTunes et Microsoft Office. Par ailleurs, le stockage local est limité puisque presque tous les documents sont sauvegardés en ligne. L'évaluation des ordinateurs portables pour l'économe, eh bien, c'est le Acer Chromebook C720. Le prix est de 270 $. La taille de l'écran est de 11,6 pouces. Le poids approximatif est de 1,3 kg et l'autonomie de la pile est de 9 heures et la capacité du disque dur est de 16 Go, la mémoire de 2 à 4 Go. Voilà. Alors, c'est le Acer. Il y a l'HP Chromebook 11 qui arrive en deuxième position, lui est à 320 $, et le HP Chromebook 14 en troisième position. Maintenant, le polyvalent. Ça, nous étions dans le... L'économe. Ah, oh, mais le mobile maintenant. Allons-y pour le mobile. Vous prévoyez utiliser souvent votre portable en dehors de la maison? Eh bien, on a sélectionné des appareils qui représentent un bon équilibre entre portabilité et performance. Ils sont utiles autant pour le divertissement que pour le travail. Et munis d'un disque dur électronique SSD, ils sont légers et offrent une bonne autonomie. Ouais. Alors, le Apple MacBook Air, 11 pouces, 1 000 $. Oh, plus cher, ça. Hein? La taille de l'écran, 11,6. Et puis, 128 Go, hein, quand même. Hein? Et puis, 9 heures d'autonomie de la pile. Ça, c'est le Apple MacBook Air. Le Lenovo IdeaPad Yoga. Oh. Lenovo IdeaPad Yoga 2. C'est bon. Et le Apple MacBook Air, 13 pouces. Alors, voilà l'évaluation des portables pour ce qui est du mobile. Le polyvalent, maintenant. Le polyvalent, vous avez l'intention de vous servir de votre portable, surtout à la maison, et cherchez un modèle que vous pourrez transporter à l'occasion. Les quatre ordinateurs qui figurent dans ce profil sont un peu plus gros que ceux choisis pour le profil du mobile. Ces appareils vous conviendront peu importe que vous les utilisiez pour le divertissement ou le travail. Vous trouverez dans cette catégorie un portable particulièrement abordable, 600 $, l'Aspire E1-572 d'Acer. Un modèle de 15 pouces et demi qui fonctionne sous Windows 8. Donc, Acer Aspire E1-572, 600 $. Il y a l'autre qui est plus cher, 900 $. C'est le Acer TravelMate P645. Ensuite de ça, il y a le performant. Ah. Si vous êtes un amateur de jeux vidéo, ou si vous faites de la modélisation 3D, les 10 appareils de ce profil sont puissants et dotés d'une carte graphique dédiée. Et la plupart sont assez lourds, pesant parfois jusqu'à 5 kg, là, 5,5 kg. Et leur autonomie est généralement faible. Ils sont donc conçus pour être utilisés à la maison. Et une autre option possible, si vous répondez au profil du performant, achetez un ordinateur de table qui offre souvent un meilleur rendement à un prix comparable, en plus de permettre le remplacement de pièces, cartes graphiques, etc. au fil du temps. Alors, dans le performant, il y a le HP Envy 15, le Dell Alienware 14, le Lenovo IdeaPad et puis le Dell Alienware. Alors, ça coûte 950 $, 1150 $, 1400, c'est pas donné quand même. Hein? Ça, c'est le performant. Alors, donc, les 10 sites qui ont été consultés pour établir les recommandations, c'est le CNET et ainsi de suite.
C'est dans le Protégez-vous de quel mois?
Du mois de octobre. Septembre, plutôt.
C'est le mois de septembre.
Dans l'actualité du 1er novembre, Isabelle Grégoire nous signe un papier au titre suivant « Des Cégepiens qui dérangent Les étudiants ayant des troubles d'apprentissage sont de plus en plus nombreux au collégial. Et les accommodements dont ils bénéficient ne font pas l'affaire de tous. Livres et textes en format audio, temps d'examen allongé avec accès au logiciel de correction, questions lues à haute voix par un responsable, service de prise de notes en classe, avec son diagnostic de dyslexie et dysorthographie grave, de troubles du déficit de l'attention et de troubles de la personnalité limite, la cégepienne Christine Robidoux, 28 ans, a droit à une foule d'accommodements. Étudiante en technique d'intervention à loisir au cégep du Vieux-Montréal depuis 2010, elle bénéficie aussi d'un horaire adapté, seulement 3 cours par session tous les matins, tous le matin, et prévoit obtenir son diplôme d'études collégiales à l'hiver 2018. 8 ans, c'est long. Mais ça va me permettre de faire un métier que j'aime, confie-t-elle. Sans ces accommodements, je ne pourrais pas y arriver. Pour que Christine puisse accroître son autonomie, les mesures de soutien dont elle profite seront toutefois allégées de façon graduelle. Ses résultats scolaires sont en tout cas au rendez-vous. Elle affiche avec fierté une moyenne de 85 % dans ses cours de technique et de 80 % dans les cours obligatoires. Au Québec, comme dans de nombreux pays occidentaux, on s'efforce depuis quelques années de donner à tous les élèves le maximum de chances de réussir leurs études. En plus de respecter le principe de l'égalité des chances, l'objectif est de préparer le plus de personnes possible au marché du travail, un investissement crucial compte tenu du vieillissement de la population et du manque de main-d'œuvre qualifiée annoncée. En vertu de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, les cégeps, comme les autres ordres d'enseignement, doivent offrir aux étudiants en situation de handicap, justifié par un diagnostic, des accommodements raisonnables permettant de pallier leurs limitations. Mieux encadrés au primaire et au secondaire depuis la réforme de l'éducation des années 2000, ces élèves ont réussi à gravir tous les échelons. Ils arrivent maintenant en force au cégep et poursuivent souvent leurs études jusqu'à l'université. Selon les données de la Fédération des cégeps, 9658 étudiants en situation de handicap recevaient des services en 2013 contre 1303 en 2007. La majorité d'entre eux, 67 % souffraient de troubles d'apprentissage dépassant largement ceux ayant des handicaps traditionnels comme les handicaps visuels, auditifs, qui représentent 23 % de ces étudiants, ou de troubles de santé mentale, 9 %. Le réseau collégial reçoit une enveloppe annuelle de 14 millions de dollars pour offrir des services adaptés. Or, selon la Fédération des cégeps, il lui faudrait 10 millions supplémentaires pour répondre aux besoins croissants. On a cruellement besoin de techniciens en éducation spécialisés, d'orthophonistes et autres professionnels pour soutenir les enseignants, dit Mario Beauchemin, qui est président de la Fédération des enseignants de cégep. L'arrivée des étudiants ayant des besoins particuliers alourdit la tâche des enseignants qui doivent assurer plus d'encadrement hors classe et durant les évaluations des travaux et des examens. Ils doivent parfois aussi ralentir le rythme en classe ou ont des difficultés quand vient le temps de former des équipes, dit Mario Beauchemin. L'étudiante Christine Robidoux en sait quelque chose. L'autre fois, on avait un travail d'équipe et le monde se battait pour ne pas être avec moi, raconte-t-elle, réaliste et résignée. L'intégration sociale, c'est le plus difficile dans un parcours comme le mien. Enseignante de français au cégep de Rimouski, Catherine Paradis estime qu'il serait dommage que la société se prive de personnes aptes à travailler, mais ayant besoin d'un petit coup de pouce. Or, je ne peux m'empêcher de me demander comment elles vont fonctionner sur le marché du travail, dit-elle. Souvent soucieuse d'imposer les mêmes exigences à tous et de ne pas niveler par le bas, l'enseignante se préoccupe aussi, comme nombre de ses collègues, de l'équité de ses mesures. Dans les cours de mise à niveau en français, l'élève qui fait une faute tous les 3 mots, et on en a au cégep, mais qui n'ont pas de diagnostic, n'a droit ni à plus de temps, ni au logiciel de correction. Du côté des étudiants ordinaires, si certains jugent ces accommodements injustes, la plupart les comprennent. Ils ont été habitués dès le primaire à voir des élèves bénéficier de divers services, dit Jean-François Perron, coordonnateur des services adaptés au cégep de Sainte-Foy, qui a une longue expérience en la matière. Mais parfois, il est préférable de faire une présentation du diagnostic en classe pour faciliter l'intégration C'est le cas, par exemple, pour l'autisme et notamment le syndrome d'Asperger. L'obligation d'offrir des accommodements aux jeunes en difficulté ne doit pas conduire à une baisse de la qualité des services et de la valeur des diplômes, dit Gérald Boutin, professeur au département d'éducation et formation spécialisée de l'UQAM. Risque-t-on de réduire les exigences, les critères d'excellence pour que tous puissent avoir accès à l'éducation à laquelle ils ont droit? Et le texte se termine sur cette interrogation des Cégepsiens qui dérangent par Isabelle Grégoire. C'est dans l'actualité du 1er novembre.
Je vous aime. Dites-moi que vous m'aimez.
Bon, d'accord.
Nathalie, hein?
Choquette.
C'est elle.
Elle-même. Alors, nous sommes dans le bel âge. Ceux qui auront survécu à l'amour se sont rendus là. Bien préparer sa retraite. En 2023, l'âge officiel de la retraite passera à 67 ans.
Ah oui?
Oui. Mais vous, c'est peut-être dans les toutes prochaines années que vous prendrez la vôtre. Comment l'avez-vous préparé? José Larivier pose cette question dans la revue Bel Âge. Eh bien, bien installé dans son lumineux condo de l'île des Sœurs, la chanceuse Sophie Bonneville raconte sa retraite. Facile à l'écouter de penser que l'expression « retraite dorée » a été inventée pour elle. Mmh. Mais Il y en a comme ça. Infirmière pendant 21 ans, elle est ensuite devenue gestionnaire dans le milieu de la santé, puis directrice de l'hébergement dans un CHSLD, un soin longue durée, comme on dit dans le jargon hospitalier. Et en 2005, Sophie prend ce qu'il est convenu d'appeler une retraite bien méritée. Elle a alors 60 ans, mais Sophie n'a pas vraiment le temps de faire la fête. L'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal lui demande d'œuvrer à titre de consultante dans son département de services régional d'admission. L'aventure durera 7 ans. Ah, j'ai connu alors le bonheur de travailler avec détachement. Je n'avais besoin ni d'une promotion, ni d'alliés à tout prix, ni de patron à qui plaire. Toute mon énergie était dirigée vers mes objectifs de travail. Cette période a été si grisante que j'ai dû faire un peu d'introspection quand je me suis arrêté. J'en ai conclu qu'il est peut-être plus difficile de prendre sa retraite quand on quitte un poste qui nous a nourris sur plusieurs plans. Et c'est exactement dans ces cas-là qu'il faut rester alerte. Pour Sophie, on vit sa retraite comme on a vécu sa vie. Les amis, les soupers, le cinéma, la lecture, le vélo, l'exercice, les musées, la cuisine, l'horticulture, la réno, le gardiennage, le magasinage, le pelletage, et tout ça continue d'exister. En prime, on a beaucoup plus de temps pour s'y adonner. Mais si, dans sa vie d'avant, on amusait uniquement sur le travail, qu'est-ce qu'on fait quand il s'arrête? J'ai vu des gens prendre leur retraite et se retrouver devant rien. Parce que le travail avait occupé toute leur vie, ça m'arrache le cœur. Il y a une madame ici, elle, avant sa retraite, ben, qu'est-ce qui est arrivé? Elle, quand on part le cœur gros, partir en chicane, elle est partie en chicane. Mmh. Idem, quand la colère nous habite, on n'a pas envie de faire la fête. C'est dans un climat de discorde que Micheline, elle, a pris sa retraite de l'enseignement il y a 5 ans.
Non.
Elle travaillait à la même école depuis 3 décennies. Les derniers temps, le climat était tendu. Une nouvelle équipe de direction avec qui elle ne se sentait pas d'atomes crochus avait envenimé son quotidien. Diviser pour mieux régner, c'est le style que les dirigeants avaient adopté, selon elle. Puis même entre collègues, les relations étaient devenues tendues. Quand j'ai donné mon dernier cours, je me suis dit qu'il n'y avait absolument personne que mon départ dérangeait. De toute façon, j'avais bien averti tout le monde. Si on organisait une fête d'hypocrites, je n'irais pas. Le jour J, Micheline a effacé son tableau vert une dernière fois, a pris soin de replacer les craies près des effaces, comme elle l'avait toujours fait avant de quitter une classe, puis a refermé la porte derrière elle. 8 ans plus tard, elle a peine à refouler l'amertume qui la ronge encore. Pas drôle, non?
Mmh.
Bon. Des conseils. Alors, c'est pour dire que...
Oui.
Il y en a que ça va bien, puis d'autres, ça va moins bien.
Plutôt des conseils, maintenant.
Oui, des conseils pour bien préparer sa retraite à faire. Eh bien, des listes de choses auxquelles on aimerait s'adonner. Par exemple, parapente. S'inscrire à des cours, prévoir diverses activités. Et chercher des façons de rester en contact avec les autres. À éviter, prendre le mort aux dents si le conjoint qui est toujours au travail vous demande ce que vous avez fait aujourd'hui. Vous n'avez pas à vous défendre ni à vous excuser. La retraite est un état mérité. Ensuite, à lire. Ma retraite. Des spécialistes m'aident à la préparer. Par Annie Boivin, José Blondin, Denis Preston et Nathalie Bachand, aux éditions Logique. À méditer. Une fois qu'on sera à la retraite, la communauté remplacera l'organisation. Qu'il s'agisse de sport, de musique, de photographie, de peinture, de bénévolat dans un hôpital, ça ne fera pas tort de continuer à avoir une certaine structure et une certaine forme d'engagement, même si on est persuadé que l'on rêve du contraire. C'est qu'il est important de retrouver un sentiment d'appartenance après avoir perdu celui qu'on éprouvait au sein d'une entreprise. À vérifier. Les influences négatives sont à proscrire. Pendant la vie active, on ferme rapidement le clapet à ses casse-pieds parce que le temps nous y oblige. On court pour le travail, pour les enfants, pour l'essentiel. Une fois à la retraite, les heures s'étirent. Attention à ne pas les consacrer à des gens qui broient du noir. On risquerait de se laisser emporter dans un tourbillon bien sombre. et à considérer. La plus grande surprise, c'est de réaliser qu'on n'a plus à répondre aux urgences ni à réagir à l'alarme matinale. Oh, mon Dieu Seigneur. On peut faire sienne la journée qu'on a devant soi ou la perdre. C'est au choix. Et puis, on termine à prendre au sérieux le sommeil et l'exercice. En quantité insuffisante, l'un et l'autre peuvent être responsables d'états d'esprit négatifs. Bonne retraite.
Des brèves maintenant, hein, des courts topos. Monument démesure en Nouvelle-Écosse. Une statue de 30 mètres de hauteur, dédiée aux Canadiens morts à la guerre, soulève la grogne dans l'île du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse. Cette statue, baptisée Mère Canada, elle représente une femme au long voile, les bras tendus vers l'Europe. Si certains y voient une occasion de promouvoir le tourisme et l'emploi, d'autres craignent qu'il ne détourne l'attention de la beauté naturelle des lieux. Nombre de néo-écossais remettent aussi en cause la décision de Parc Canada et du Parti conservateur d'autoriser l'aménagement de ce site en plein parc national. La fondation du Mémorial national N'oublions jamais, créée en 2012, prévoit aussi aménager au pied de la statue l'enceinte commémorative de l'amour de la patrie. Une installation ornée de plaques portant les noms des cimetières où reposent les soldats canadiens dans le monde. Financée par le secteur privé d'un coût estimé entre 25 et 60 millions de dollars, le monument devrait être achevé en 2017 à temps pour le 150e anniversaire de la Confédération.
Bain de bois. Oh! Les promenades en forêt font baisser le niveau de cortisol, hormone du stress, le sang diminue la tension artérielle. Au Japon, où cette pratique est largement répandue, des scientifiques de la Nippon Medical School ont aussi observé qu'elle augmentait chez leurs sujets la vigueur du système immunitaire, tout en diminuant l'anxiété, la dépression ou encore la colère. L'air forestier, dispersant des huiles essentielles aux propriétés calmantes et décongestionnantes, le silence, les couleurs, les odeurs, l'énergie transmise par les arbres, l'oxygène, voilà autant de raisons, cet automne, de pratiquer le Shirin Yoke, une branche de la sylvothérapie à la portée de tous.
Ah ben oui.
Une liste des parcs nature de la région montréalaise se trouve sur le site de la Ville de Montréal et sur celui de la CEPAC, le réseau des parcs et réserves fauniques de la province.
Bon, alors je vous parle...
C'est beau, hein?
Oui, très bien. Là, je vous parle de maladies maintenant.
Oh.
Les beaux, là.
Mais allez dans la forêt.
Le sang des charlatans. Devant l'absence de remède contre l'Ebola, des malades se tournent vers un traitement controversé et ils se font transfuser du sang de personnes ayant survécu à la maladie, en espérant que les anticorps qu'il contient les guériront. Ce sang très convoité se vend maintenant sur le marché noir en Afrique de l'Ouest, ce qui inquiète l'Organisation mondiale de la santé. Non seulement les méthodes de collecte et de conservation de ce sang laissent à désirer, mais comme il n'est pas soumis à des tests de dépistage, il est susceptible de transmettre d'autres maladies, dont le sida. L'OMS concède tout de même que la transfusion de sang des survivants constitue le traitement le plus prometteur à l'heure actuelle, à condition qu'elle soit faite dans des conditions sanitaires adéquates. L'organisme entend d'ailleurs constituer un registre des survivants. Il serait environ 3500 qui pourraient donner de leur sang. Hein?
Oui.
L'Ebola, la lutte.
Eh bien, calmant et démence... Si la santé de nos finances à la retraite se prépare maintenant, Il en va de même pour notre santé tout court. Une étude franco-québécoise publiée récemment dans le British Medical Journal vient confirmer que la consommation de tranquillisants sur des périodes de 3 mois et plus augmente le risque de développer la maladie d'Alzheimer après 65 ans. Et les benzodiazépines prescrites pour traiter l'insomnie et l'anxiété entraînent une hypovigilance qui, avec le temps, a des effets nocifs sur le fonctionnement cognitif. Et ces médicaments, rappellent les chercheurs, doivent être consommés seulement lorsqu'ils sont indispensables. Eh bien, imaginez-vous qu'on peut boire du chasse-poison.
Hein?
Ben oui. Alors, si vous avez pris des médicaments, là, c'est pas bon, là, et tout ça, là. Le jus de pousse de brocoli a eu des effets prodigieux pour les fermiers chinois habitant dans l'une des régions les plus polluées de la Chine. Et ce breuvage a permis d'éliminer en grande quantité des composés toxiques ou cancérigènes stockés dans leur organisme. Le brocoli est une source de sulforaphane. Ceux-ci stimulent la production d'enzymes pouvant expulser hors de notre corps les résidus d'émissions polluantes lorsque la plante est mâchée ou consommée sous forme de boisson. Il stimule la production d'enzymes pouvant expulser hors de notre corps les résidus d'émissions polluantes.
C'est tout, Serge Hamelin, Roger Roy. Nous vous disons merci. Au revoir. À la prochaine.
Oui.